Alléluia. Gloire au Seigneur qui nous permet d'être là en ce matin et qui nous permet de partager sa parole. J'aimerais qu'on puisse saluer à gauche, à droite et avec un grand sourire. Ça fait toujours du bien. Par la même occasion, j'aimerais aussi exprimer ma gratitude vis-à-vis de notre pasteur, le pasteur Joseph Bundo, qui a bien voulu nous faire confiance afin que nous puissions nous tenir derrière cette chaire et parler de la part de Dieu. En ce matin, j'ai à nous proposer une lecture dans l'Évangile selon Luc. Évangile selon Luc, nous lirons à partir du verset 19 jusqu'au verset 31. Évangile selon Luc, verset 19 à 31. Évangile selon Luc, chapitre 16, pardon. Versets 19 à 31. C'est une des célèbres paraboles que nous connaissons tous. On l'appelle, on l'intitule souvent dans nos Bibles, « L'homme riche et le pauvre Lazare » ou « L'homme riche et Lazare ». Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe debout le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai cinq frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Et il dit, « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Et Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader. » Quand même, quelqu'un des morts ressusciterait. Amen. J'aimerais prier.
J'aime mieux avoir Christ que d'être arrivé au sommet de la gloire de la célébrité. J'aime mieux avoir Christ que l'art le plus grand, j'aime mieux qu'il dispose de tous mes talents, que d'être un grand roi vêtu de fin lin, mais le cœur disait sans lui. J'aime mieux avoir Christ que les plus que le monde offre aujourd'hui.
C'est la prière que nous faisons, Seigneur, d'avoir, toi, le plus grand bien, la plus grande des richesses. Bénis ta parole alors que nous allons la prêcher, qu'elle soit communiquée de ton onction et qu'elle nous apporte la vie. Nous refusons tout ce qui s'élève contre la connaissance de ton nom, au nom de Jésus, et nous condamnons toute langue qui s'élève contre ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Ce matin, nous voulons partager sur un sujet, cinq bonnes décisions prises au mauvais moment. Cinq bonnes décisions prises au mauvais moment ou cinq bonnes décisions prises tardivement. Nous sommes en face d'un texte célèbre. Vous avez certainement écouté ou peut-être vous-même prêché là-dessus. Un des textes célèbres sous les paraboles. L'Évangile contient beaucoup de paraboles. Et Jésus avait l'habitude de parler à son auditoire de plus souvent avec les paraboles. La Bible compte à peu près 50 paraboles, 10 dans l'Ancien Testament et 40 dans le Nouveau Testament. Il y a des tas de paraboles. Vous avez dans l'Ancien Testament, par exemple, les paraboles célèbres où on parle des arbres qui sont venus faire une sorte de concours de compétition, la vigne de l'Éternel. Vous avez aussi ces paraboles-là où une femme veut se décider à prendre quelque chose auprès du roi et le conseiller du roi lui dit, écoute, va parler au roi avec une parabole. C'est déjà en plein Ancien Testament parce que les Juifs, dans leur façon de vivre, ils aimaient bien parler en parabole. Une parabole, c'est quoi? C'est juste une histoire qui s'inspire de la vie réelle, qui s'inspire de ce que la société vit dans chaque jour. Chaque jour, il y a des événements, chaque jour, il y a des hommes qui se marient, chaque jour, il y a des hommes qui mangent, chaque jour, il y a des hommes riches et des hommes pauvres. Et ainsi, la Bible nous montre comment est-ce que, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau, Dieu emploie les paraboles pour nous parler. Parce que derrière les paraboles, il y a de la sagesse. Bien sûr, la Bible contient plusieurs tournures, plusieurs formes d'allégories, plusieurs formes d'expressions. Mais aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur cette parabole. Et nous allons voir comment nous avons en face de nous un homme qui prend 5 bonnes décisions, mais seulement il les prend en retard. Mon frère, ma sœur, il ne sert à rien dans la vie de prendre des décisions en retard. Parce que si vous prenez votre train en retard, ça ne sert à rien, vous n'arriverez pas à destination. Un homme qui prend les bonnes décisions, mais qui les prend lorsque on ne compte plus. C'est comme si durant un match de football, on a déjà sifflé la fin et vous marquez le but. Est-ce que ça va compter? Est-ce que ça va apparaître au score? Il en est ainsi de quelqu'un qui fait des bonnes aspirations. Il se décide enfin, il dit non, je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Mais seulement, il le fait au mauvais moment. Il le fait lorsque le temps n'est plus. Nous avons en face de nous un texte puissant où Jésus, comme dans ses habitudes, il veut pousser son auditoire à réfléchir. La Bible montre comment est-ce que Jésus parlait à ses disciples et à tous ceux qui étaient dans son auditoire. Au début de son ministère, Jésus parlait clairement et ça commençait à lui tirer beaucoup de problèmes et de conflits. Alors Jésus commença petit à petit à utiliser les paraboles et lui-même dit, afin que seulement ceux qui ont le mot de passe puissent comprendre. Et ceux qui avaient le mot de passe, c'était les disciples. Alléluia. Donc Jésus parle en parabole et ici, il nous dit quelque chose de fort. J'aimerais d'abord commencer par dire que c'est la seule parabole où nous avons des noms et des prénoms qui sont donnés. Vous remarquerez que dans les paraboles, c'est un homme avait 2 fils, un jour un semeur est sorti pour s'aimer. On ne donne jamais de prénoms. Mais pour cette parabole, la particularité, on nomme quelqu'un. Et Jésus, pour attirer encore l'attention, on ne donne même pas le nom du riche, mais on donne le nom du pauvre. Et le riche est un fameux inconnu anonyme. Jésus laisse le riche dans l'anonymat et il fait ressortir l'image du pauvre. Est-ce à dire que la pauvreté serait une vertu et que la richesse serait un vice? Est-ce que cette parabole, c'est pour dire qu'être riche, c'est mauvais? Est-ce que cette parabole, c'est pour dire, oh, ça ne sert à rien d'avoir l'argent, soyons tous pauvres? Parce qu'une lecture terre à terre, une lecture rapide, pourrait penser à faire croire cela, que finalement, c'est le riche qui perd dans l'éternité et c'est le pauvre qui gagne. Donc, conclusion, soyons pauvres. Mais non, ce n'est pas ça le but de Jésus. Et tout le message de la Bible, d'ailleurs, prouve que Dieu n'est pas contre la richesse. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Abraham lui-même était très riche. Vous savez qu'Abraham était excessivement riche. La Bible, parlant de Joseph, alors qu'il était en train d'amasser, utilise un terme dans le texte original. La Bible dit exactement, Joseph, il amassa tellement de biens qu'il n'y avait plus de chiffres pour compter. C'est-à-dire, il avait tellement amassé de biens pour le royaume de l'Égypte, que Il n'y avait plus de chiffres. Ils avaient compté 1 million, 4 millions, 4... Vous savez, ce genre de chiffres-là, 400 milliards de millions. Et puis vous-même, même si vous êtes licencié, même si vous avez Bac plus 25, vous ne savez pas lire ces chiffres. Parce que vous avez 25 zéros après. Il n'y a plus de chiffres. Ah, je prie que Dieu bénisse quelqu'un. Et que Dieu donne à quelqu'un. Parce que nous avons besoin d'avoir des hommes qui sont bénis, des femmes qui sont bénies. Dieu n'est pas contre cela. Alléluia. De toutes les façons, les hommes qui sont bénis, et s'ils sont des bons chrétiens, ils béniront aussi l'œuvre du Seigneur. Si, j'aime souvent dire, si nous avions dans cette église 4 milliardaires, vous imaginez leur dîme. Vous aurez peut-être de temps à autre, vous direz, je ne mettrai même pas l'offrande une année. Alléluia. Ça, je dis pour vous amuser, mais c'est, chacun de nous doit donner quelque chose. C'est par reconnaissance pour ce que Dieu fait, que ce soit petit, que ce soit grand. Je le dis juste pour insister sur le fait que ce texte n'est pas l'apologie de la pauvreté. Ce n'est pas non plus un procès contre la richesse. Ce texte n'est pas là pour dire, soyez pauvres. Parce qu'il y a un esprit religieux, justement, qui a traversé l'Église pendant des siècles et qui voulait faire de ce texte un texte où Dieu voulait que les gens soient pauvres. Si tu aimes le Seigneur, tu dois être pauvre. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois être pauvre. Si tu es un enfant de Dieu, tu dois être seulement piéton, tu dois porter des babouches sales. Et si on te voit, tu as un bel habit, une jolie robe, on dit, ah, lui ne prie plus. Non, Jésus n'est pas dans ça. Jésus veut élever la réflexion de son auditoire plus haut. Parce que si vous voulez considérer le texte dans l'ensemble, à partir de Luc au chapitre 15, Jésus introduit trois paraboles. Il parle de la parabole de la pièce de monnaie perdue et retrouvée, de la parabole de la brebis perdue et retrouvée, et de la fameuse parabole du fils prodigue, l'enfant perdu et retrouvé. Après, Jésus va énoncer une autre parabole et acheminer sur ce point. Le verset 14 de Luc 16 nous dit ceci, j'aimerais lire, « Les pharisiens qui étaient avares écoutaient aussi tout cela et ils se moquaient de lui. » L'auditoire de Jésus était composé des avares. Le problème, c'était celui-là. Le problème de Dieu, ce n'est pas que vous soyez riche, mais que votre richesse vous fasse oublier Dieu. Le problème de Dieu, ce n'est pas que vous soyez bénis avec beaucoup de biens, que ce soit physique, intellectuel, que ce soit financier. Non, Dieu n'est pas contre cela, mais Dieu est contre ce que vos biens vont faire contre votre vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Amen. Les pharisiens, des grands avares, ils sont tournés vers l'argent. Alors Jésus, pour les choquer, utilise un texte où le pauvre est un homme qui a un prénom, il est vêtu de rien, de guenilles, il s'assoit sur le paillasson comme un chien. De toutes les façons, le texte le prouve, ses amis aussi c'était des chiens, et ils mangeaient aussi les miettes comme les chiens. Quel texte choquant pour l'image du chien dans la tradition juive. Et on se dit certainement, oh, de toutes les façons, nous, les pharisiens, les sadducéens, prêchaient que les hommes qui sont riches, ça signifie que Dieu a agréé leur vie. Et ceux qui sont pauvres sont des gens que Dieu n'accepte pas. C'était ça leur philosophie de la vie. Alors Jésus, pour les choquer, utilise un texte où le pauvre se retrouve, on va dire, dans la vie éternelle et où le riche se retrouve dans la condamnation éternelle. Alors ces gens n'en reviennent pas. Un homme vêtu de pourpre et de fin lin, chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Ces deux mots parlent à la fois de la richesse, mais aussi de la carrière. C'était quelqu'un qui excellait dans un domaine. Aujourd'hui, ce serait peut-être un avocat terrible, ce serait un ingénieur sans faille, ce serait un mécanicien qui n'échoue jamais sur une voiture, ce serait un plombier hors pair, ce serait un couturier, mais un homme brillant. Un homme qui certainement se dit, qu'est-ce que moi j'ai à faire avec Dieu? J'ai tout ce qu'il me faut. Et malheureusement, comme ça arrive, pour quelques riches qui n'aiment pas partager, ils se disent, moi j'ai trop souffert pour avoir mes biens. et ne peut pas les partager. Vous avez connu ces gens de parents qui ont tout. Moi, j'ai connu, j'ai eu un ami à moi dont le père était quand même dans une bonne situation. Mais le père avait été dans le village depuis sa tendre enfance. Il allait à l'école à pied et il a décidé que ses enfants, mes amis, n'utiliseraient pas sa voiture. Il disait, moi, quand j'étais au village, j'allais au cours à pied. Vous aussi, vous allez étudier à pied. Chers parents, vous avez marché à pied pour que vos enfants montent dans la voiture. Parce que la loi de Dieu, c'est celle-là, c'est que les parents payent le prix pour les enfants. Parce que normalement, si vous avez étudié à pied, vos enfants vont aller à l'école en voiture. Si vous avez étudié à ras le sol, vos enfants vont s'asseoir de manière correcte. Et vous pouvez multiplier les exemples. Alléluia. Dieu est pour que la richesse soit pour sa gloire. Jacques 1, 17 dit que tout don parfait et toute grâce excellente descendent d'en haut du Père de lumière dans lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Ça vient de lui. C'est lui qui bénit. Alléluia. C'est l'Éternel qui bénit. Que personne ne nous trompe. Alors nous allons réfléchir sur les 5 points. Le premier point qui va retenir notre attention dans cette parabole, c'est que Dieu est notre vraie richesse. Ce sont ces 5 points qui sont les bonnes décisions que notre ami, que j'appelle dans mon texte le pauvre riche, parce que finalement c'est lui le pauvre, il va commencer à se poser des bonnes questions et il va s'intéresser aux bonnes choses, mais seulement il le fait en retard. Seigneur, s'il te plaît, aide quelqu'un dans cet auditoire à ne pas prendre la bonne décision en retard. La Bible dit, le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans les seins d'Abraham. Le riche mourut aussi et il fut enseveli. Ce texte paraît ne rien dire, mais les termes qui sont utilisés parlent suffisamment. On comprend mot à mot que pour le pauvre, il y avait peut-être même pas certainement de deuil. Le comble, on ne dit même pas qu'il fut enseveli. Peut-être son cadavre était resté au long de la route, que les services sociaux, s'il y en avait à l'époque, l'avaient récupéré. Les agents de la commune ont pris son cadavre comme des cadavres abandonnés. Ah, pauvre, il n'avait rien. Mais, bizarrement, ce pauvre avait quelque chose d'autre. Il avait une richesse intérieure. Il connaissait Dieu. Mais le riche va mourir, il fut enseveli. Ah non, lui ne meurt pas comme n'importe qui. Lui, il y a un communiqué qui passe à la télé, il y a sa photo sur tous les journaux, les grands hommes du pays sont là, sont deuil. Chapeau bas, courbette, c'est un grand homme qui est parti, place au discours, aux raisons funèbres. Ah, il a étudié dans les grandes universités, il a été à Boston, on a étudié avec lui, on était avec lui au Japon, il a 4 masters, ainsi de suite. Un homme au parcours hors pair, un homme intellectuellement bâti, un homme qui a une bonne position ici sur Terre. Mais là-bas au ciel, son compte bancaire, zéro. Il avait tout pour être envié sur Terre. Et vous savez, souvent, comme le dit le vieil adage, des morts, on ne dit que du bien. Souvent, dans les deuils, on ne dit que des bonnes choses. Même si c'était un mauvais papa, même si c'était une mauvaise dame. Oh non, en tout cas, tu nous étais cher. Tu nous étais cher. Il leur était cher, peut-être. Un homme qui n'avait pas d'égard pour les autres. Mais ma Bible dit, au verset 24, qu'il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. » Le premier point, Dieu est notre vraie richesse. Alléluia. C'est arriver de cet autre côté de la vie, parce que finalement, la vie ne s'arrête pas. Mon frère, ma sœur, depuis le jour où vous avez commencé à vivre, vous continuerez à vivre. Même après la mort, vous allez continuer à vivre. Mais soit vous vivrez éternellement du côté de Dieu, soit vous mourrez littéralement, vous vivrez la mort. Alléluia! La vie, c'est ça, ça ne va jamais s'arrêter, parce que la vie, de toutes les façons, ne commence pas non plus. Elle se transmet. C'est quelqu'un qui a la vie, qui donne la vie à quelqu'un d'autre. Et cette vie-là, mon frère, ma soeur, pour nous les hommes, elle va continuer, elle va toujours continuer. Même après votre mort, c'est ce que Jésus donne comme enseignement ici. Il y a une vie après ici sur terre. Ne pas investir seulement pour la terre. Dieu est notre vraie richesse. Alléluia. Dieu est notre vraie richesse. Nous cherchons à accumuler des biens, nous cherchons à acheter des biens. Gloire à Dieu, il n'y a rien de mauvais à se procurer quelque chose ici sur terre. Mais ne le faisons pas au détriment de notre foi. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous pouvez m'aider à prêcher en disant à votre voisin, Dieu est notre vraie richesse. Alléluia. Le deuxième point que je vais partager, qui est une des deuxièmes décisions ou bonne attitude que notre ami, le pauvre riche, comme je l'appelle, va prendre. Il va réaliser d'abord que tout ce temps que j'étais sur terre, je me trompais. Ma vraie richesse, j'aurais dû la placer en Dieu. Mais deuxièmement, il se rend compte qu'il faut travailler pour son salut éternel. Le deuxième point, la deuxième bonne chose qu'il fait en retard, il commence à vouloir travailler pour son salut éternel. Il se rend compte qu'il est dans les tourments. D'ailleurs, la Bible, pour le signifier dans cette parabole, Jésus utilise le mot tourment 4 fois. Par 4 fois, on parle de tourment. C'est que vraiment, il était tourmenté. Il était au tourment. Pendant qu'il était tourmenté, il demande à Abraham, il dit, « Aie pitié de moi !» Oh, toi aussi tu demandes qu'on ait pitié de toi? Toi qui pensais que tout était à toi? Toi qui pensais que la vie serait seulement ici sur terre et qu'après cette existence, il n'y a plus rien? Il commence à demander qu'on ait pitié de lui. Pourquoi? Parce qu'il se rend compte qu'il est perdu. Ceci reste une parabole parce que dans le ciel, il n'y aura pas moyen que ceux qui sont en enfer puissent nous voir et que ceux qui sont au ciel puissent voir ceux qui sont en enfer. Mais Jésus est juste en train de vouloir monter une sorte de scène où son auditoire va se rendre compte clairement de la souffrance de cet homme. Donc il est assis dans un coin où, je ne sais pas, allongé, en train de souffrir. Et il aperçoit de l'autre côté Lazare. Ah, il connaissait même son nom. C'est ce qui me surprend. Donc, il faisait fi de cet homme tout en connaissant son nom. Il dit, est-ce que tu peux envoyer Lazare pour qu'il trempe? Il ne demande pas beaucoup. Regardez son humilité. Oh là là, il ne demande pas beaucoup. Il ne dit pas non. Aïe, la n'a pas. Non. Il demande qu'il plonge son doigt dans l'eau et que les gouttes là, qu'une goutte seulement, une goutte. Ah! Toi qui avais tout, tu commences à manquer une goutte. Le but de Jésus, c'est celui-là, de créer cette réflexion-là. Quelqu'un qui avait tout, mais il cherche une goutte. Il cherche une goutte. Est-ce que vous pouvez avoir quelqu'un qui frappe chez vous à la porte et vous dit toc, toc, toc? Est-ce que je peux avoir une goutte d'eau? Je suis sûr que vous allez avoir peur même de le servir. Je dis, c'est monsieur ou cette dame, qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il cherche avec une goutte? Ses souffrances étaient atroces. Il a commencé à réfléchir. Ah, j'aurais dû me positionner du bon côté. J'aurais dû tout faire pour que moi aussi, je sois là où se trouve Lazare. J'ai mené ma vie d'une manière qui ne t'est pas convenable pour Dieu. Et maintenant, il n'y a plus de choix pour moi. Je suis foutu. Je suis au bout du rouleau, comme on dit. Alléluia. Alléluia. J'aimerais énoncer un principe que vous connaissez certainement. Que celui qui est né 2 fois mourra 1 fois. Et que celui qui est né 1 fois mourra 2 fois. Celui qui est né 2 fois, Ça signifie celui qui est né dans la chair et puis qui est né spirituellement, qui a donné sa vie à Jésus. Alléluia. Si vous êtes quelqu'un qui est né dans la chair et puis qui est né de nouveau, vous allez mourir seulement une fois. C'est ce que la Bible nous prêche. Vous allez seulement mourir une seule fois, après quoi vous attendrez l'enlèvement de l'Église et vous serez porté vers Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais celui-là qui n'a pas connu Dieu, il est né donc seulement une fois. Et s'il lui arrivait de mourir, il mourra la première fois dans sa chair et la deuxième fois, parce que ne pas être avec Dieu, c'est la mort. La Bible appelait cela la mort éternelle. Et l'Apocalypse utilise un terme, la seconde mort, la condamnation éternelle. Donc, je répète, qui est né deux fois mourra une fois, et qui est né une fois mourra. Aide-moi à prêcher ça à ton voisin en le lui rappelant. Je vais m'assurer que vous avez saisi. Alléluia! J'espère que vous ne le faites pas dans la confusion et qu'il n'y en a pas qui ont dit que celui qui est né trois fois mourra une fois. La Bible dit dans Hébreux 9, 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mon frère, ma sœur, c'est très important de réfléchir sur son salut éternel et d'y travailler. Mais notre cher ami, il a décidé d'y travailler tardivement, alors que c'était le mauvais moment. Bonne question, bonne attitude. Il veut être en paix. Il veut lui aussi avoir une sorte de quiétude éternelle. Mais seulement, il commence à y travailler tardivement. Il commence à chercher une goutte d'eau. Mon frère, ma sœur, avez-vous choisi le bon camp? Quel camp avez-vous choisi? Est-ce que jusqu'aujourd'hui, vous êtes encore un homme qui vient juste à l'église? Vous donnez votre dîme, votre offrande. Gloire à Dieu. Vous venez les dimanches, c'est pour vous soulager psychologiquement, dire que je viens aussi à l'église. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça et disent, eh bien, je suis quand même chrétien. Mais est-ce que la manière dont nous marchons prouve que nous allons passer notre éternité avec Dieu? Il n'y aura pas de seconde chance. Il n'y aura pas d'examen de rattrapage. La Bible dit que lorsque l'homme meurt, on n'attend qu'une seule chose, c'est le jugement. Alléluia. C'est maintenant que nous pouvons travailler pour ce que sera notre condition éternelle. N'attendons donc pas qu'il n'y ait plus de moment. Selon la Bible, il n'y a aucune formule, aucune bénédiction, aucune prière qu'un homme puisse faire pour que celui qui est mort puisse passer de l'éternité de condamnation à l'éternité de salut. Mon frère, ma sœur, j'insiste, travailles-tu suffisamment? Travaillez-vous assez pour votre salut éternel? Le riche réfléchit à cela, mais seulement il réfléchit en retard. Alléluia. La première fois, nous avons dit qu'il a découvert que la vraie richesse, c'était Dieu. La deuxième chose, il décide de travailler pour son salut éternel. Troisièmement, ce monsieur qui est très épatant va faire quelque chose. Si vous lisez, entre nous déjà, vous savez, même après la mort, les riches sont habitués à donner les ordres. Hein. Vous remarquez, même là, il commence à donner des ordres à Abraham. Il est tellement habitué à commander. Bon, il dit proprement, hein, Abraham, aie pitié de moi, mais il l'envoie quand même. Il dit, essaie de voir Lazare et envoie-le pour qu'il trempe. Abraham lui dit, non. Maintenant là, ce n'est plus le cas. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il répond à la place, il envoie encore. Il dit, écoute, chez moi là, dans la maison de mon père, j'ai cinq frères. Mais je me rends compte que si on ne leur prêche pas, ils seront ici. Abraham, s'il te plaît. Ressusciter Lazare, hein? Que Lazare parte chez nous, à venir, je ne sais quoi, numéro 45, qu'il se présente, hein? Habitué à donner des ordres. Mais c'est trop tard. Abraham va lui donner des réponses tranchantes. J'aimerais lire cette portion. Le riche dit, verset 27, « Je te prie donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses. » Voilà, quelle bonne démarche. Ouh, un frère rempli des ailes, il ne veut pas que les gens aient un enfer. Afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Ah, j'aime beaucoup ce verset-là. « Ils ont Moïse, ils ont les prophètes qui les écoutent. » À ce stade de la composition de la Bible, à ce moment-là, Moïse et les prophètes représentent la Bible. Ça représentait tout l'Ancien Testament, pratiquement. Donc, ils ont Moïse, ils ont les prophètes, c'est-à-dire, ils ont la parole de Dieu. Voilà donc mon troisième point. La parole de Dieu, seul moyen de salut. Notre cher ami se rend compte qu'il a besoin de Dieu. Il se rend vraiment compte que sa famille a besoin de la parole de Dieu. Il se rend compte qu'il faut qu'il y ait quelqu'un qui parte annoncer la parole. Que ce soit Lazare, que ce soit quelqu'un d'autre, mais trouver quelqu'un qui puisse prêcher cette parole. Ah, il commence à comprendre que la parole de Dieu, c'est le seul moyen de salut. Mais seulement, il a aussi compris cela en retard. Mon frère, ma sœur, nous fréquentons l'Église depuis des années, mais est-ce que nous vivons selon la conformité à cette parole? Combien parmi nous faisons de cette parole juste des fables? On se dit, tiens, c'est un livre autour duquel les prédicateurs viennent faire des sermons. Mais avez-vous une vie de méditation de la parole de Dieu? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'avoir Moïse et les prophètes, c'est donc suffisant pour être sauvé? Alléluia! Fonder sa foi sur la parole de Dieu. Parce qu'en contrepartie, lorsque Abraham lui dit qu'ils ont Moïse et les prophètes, notre ami qui ne se fatigue pas, il lui répond au verset 30. « Non, père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Donc lui, il veut que ce soit un boom évangélique. Campagne d'évangélisation organisée par quelqu'un qui est revenu des morts. Entre nous, ça serait très facile. S'il y avait campagne d'évangélisation ou séminaire à la bande, ça sera tenu par l'ange Gabriel. Je pense que tout le monde viendra. Et si on va, comme on faisait à l'époque, dans les terrains de Sainte-Thérèse, Angile, faire des campagnes d'évangélisation, et on nous dit que ce sera un ange, je suis sûr que ça sera plein à craquer. Mais c'est trop facile. Abraham lui dit, non. Non, 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 non. Ils ont Moïse et les prophètes. Il lui dit, même si quelqu'un ressuscitait des morts, ça ne va rien changer. J'aimerais dire quelque chose de fondamental, c'est que la parole de Dieu est au-dessus du miracle. L'homme est en train de demander un miracle à Abraham. Il dit, Abraham, ce genre de choses-ci, ça se fait par des miracles. Il y aura conversion. Oh, il est devenu un bon chrétien. Lui, maintenant, il croit au miracle. Peut-être même il voulait parler en langue. Il lui dit, tiens, ce genre de situation, ça demande les miracles. Si quelqu'un vient, il dit, il se présente, il dit, moi, je suis Lazare, j'étais mort depuis 2018, au début de l'année, et là, j'ai vu ça et ça. Les gens vont se convertir. Abraham dit, non, 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 non. Ce qui importe, ce n'est pas d'abord le miracle, mais c'est de croire en la parole de Dieu. Parce que la puissance de la parole de Dieu peut transformer ton cœur. La puissance de la parole de Dieu permet que tu puisses vivre éternellement. Ne sous-estimons pas cette parole. C'est la parole ineffable de Dieu. Alléluia. La Bible dit que Dieu a créé toutes choses et il soutient toutes choses par cette parole. C'est cette parole qui peut faire que tu deviennes riche. C'est cette parole qui peut faire que tes enfants ne soient pas malades. C'est cette parole qui peut faire que de génération en génération, ta famille soit bénie. Alors ne sous-estime pas cette parole, ne sous-estime pas la portée de cette parole. Mais notre ami le riche, il a compris ça. Malheureusement, il a compris cela en retard. Il a compris peut-être ce verset de Romains 10, 17 qui dit « La foi vient de ce qu'on entend, virgule, ce qu'on entend de la parole de Dieu. » Mais il a compris ça en retard, au mauvais moment. Ah, il se dit, j'ai essayé déjà beaucoup de choses, mais ça ne marche pas. Ces gens sont décidés pour me croupir ici. Mais non, il n'y a aucune méchanceté. Vous avez travaillé toute votre vie pour ce que sera votre éternité. Parce que Dieu est juste. Alléluia. William Booth, le fondateur de l'armée du salut, écrit dans un de ses livres, « Dieu serait-il fier d'envoyer quelqu'un dans la condamnation éternelle sans avoir mal au cœur ?» Et il répond, « Oui, parce que Dieu est juste. Parce que Dieu vous a donné toutes les occasions de vous convertir. Dieu vous a donné toutes les occasions de vous affermir. Dieu vous a donné toutes les occasions pour être à lui. Mais malheureusement, l'homme riche, ce n'était pas le cas. Il ne voulait que s'occuper de sa carrière. Il était concentré sur sa carrière. Il était concentré sur son mariage. Il était concentré sur ses biens. Il était concentré sur ses investissements. Mais il avait oublié l'essentiel. Il ne sert à rien de gagner le monde entier et de perdre son âme. Il avait oublié ses fondements de base. Alléluia. Quatrième chose, ou quatrième bonne décision que notre cher riche va prendre. On a déjà lu les versets, je vais juste commenter pour gagner le temps. Partager à l'infinitif. Il a décidé de partager. Il se rend compte qu'il faut partager. Il faut partager la bonne nouvelle. Il faut partager l'information que moi, votre frère, qui avait mené ma vie de cette façon, je me retrouve déjà ici. Il veut partager. Il serait peut-être même prêt à partager ses biens, qui sait. Mais, comme je l'ai dit depuis le début, c'est le mauvais moment. Il ne se souciait jamais de sa condition éternelle. Il ne se souciait pas non plus de partager ce qu'il avait. Jésus, en prêchant sous cette parabole, n'est pas seulement en train de parler aux pharisiens par rapport à la richesse, parce qu'ils étaient avares, mais Jésus est en train de parler au peuple juif qui avait fait du salut sa propriété privée et qui estimait que Dieu ne pouvait jamais tourner ses regards vers les autres nations. Jésus est en train de dire prophétiquement à ceux qui l'écoutent que le salut qui était chez vous, écoutez, vous vous êtes enorgueillis de cela. Je vais choisir d'autres personnes. Les personnes auxquelles vous n'avez jamais pensé. Et c'est le pauvre. Quelqu'un qui n'était pas dans le tableau. Quelqu'un qui ne remplissait pas les critères. Quelqu'un qui, selon vous, n'était pas digne. Mais c'est ces personnes-là, vers eux, le salut va partir. Alléluia. J'aimerais ici parler de partager. Partager ce que l'on a. Partager la parole de Dieu dans le contexte. Partager, prêcher. Combien d'entre nous décident de prêcher la bonne nouvelle ? Combien d'entre nous disent ce que Jésus a fait pour eux? J'ai remarqué qu'au fil des années, personne ne prêche, plus personne ne prêche. On est devenu des relais de nos églises. On invite les gens à la prière, on invite les gens à l'église, on invite les gens au séminaire. Gloire à Dieu, il n'y a rien de mauvais. Mais le maître n'avait pas dit « invitez-les à l'église ». Il avait dit « allez et faites de toutes les nations mes disciples ». Il avait dit « allez ». Il n'avait pas dit « allez chez les gens, dites-leur venez ». Mais il avait dit plutôt « allez ». Il nous a dit « allez », mais nous n'allons pas. Nous nous asseyons et nous disons aux gens « venez ». Venez chez nous. Il y a un séminaire. Venez chez nous. On a deux cultes, mais ce que le maître veut, c'est des hommes et des femmes qui partagent. Est-ce que vous sentez-vous responsable de ceux avec qui vous vivez qui ne connaissent pas Dieu? Est-ce que vous sentez-vous responsable de ceux avec qui vous êtes dans le même auditoire qui iront certainement loin de Dieu pour toute l'éternité? Vous êtes comme celui qui a trouvé le médicament qui guérit d'une maladie mortelle, mais vous privez cela à ceux qui sont autour de vous. Vous avez trouvé la solution pour le péché, et cette solution, c'est Jésus. Alléluia. Mais est-ce que vous partagez cela? L'Église tue plus que les armes à feu, Le silence de l'Église tue plus que la bombe atomique, plus que l'arme nucléaire. Le silence de l'Église tue les âmes pour toute l'éternité. Mon frère, ma sœur, il est très important que nous puissions nous lever et commencer à partager cette parole avec le zèle. Partager cette parole. Partager cette parole. Se soucier de l'éternité des gens qui sont autour de nous. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Cet homme commence à penser au salut éternel des gens avec qui ils sont. Mon frère, vous, vous êtes avec qui? Dans le bureau au travail, vous êtes avec qui? À l'école où vous enseignez, vous êtes avec qui? Combien avez-vous déjà gagné au Seigneur? À l'hôpital, vous êtes avec qui? Au bureau, vous êtes avec qui? Mais quels efforts investissez-vous pour prêcher? On ne vous demande pas de devenir théologien, on ne vous demande pas de prêcher de Genèse Apocalypse. Ne fût-ce que leur dire, Jésus vous aime, il est mort pour vous. Croyez en lui, vous recevez le pardon de péché. Alléluia. Alléluia. Notre ami a pris décision, mais il a pris cela en retard. La décision de commencer à partager. Il se soucie de l'évangélisation. En tout cas, si dans le lieu de condamnation, il y avait une équipe d'évangélisation, je crois personnellement qu'il allait chercher à devenir membre. Mais à quoi servirait une équipe d'évangélisation en pleine condamnation éternelle? Il allait commencer à chercher les moyens. Beaucoup d'entre nous ressemblent à des personnes qui ont reçu des grâces, mais qui ne les diffusent pas. Vous savez, dans l'histoire des enfants d'Israël, il est souvent parlé d'une mer qu'on appelle la mer salée, mais dans la géographie, on appelle cela la mer morte. La mer morte qui se trouve entre Palestine, l'Israël et la Jordanie. Pour ceux qui s'y intéresseraient, essayez d'aller sur Internet ou de lire les livres. La mer morte, c'est le point le plus bas de la terre. Parce que la profondeur de la mer morte est d'environ 400 mètres. C'est-à-dire 400 mètres au-dessus du niveau des eaux et mers. C'est-à-dire c'est le point le plus bas. Mais on appelle la mer morte, mer morte. La mer morte reçoit des eaux. Mais elle ne les transfère à personne. Elle est une mer morte parce qu'elle reçoit les eaux bleues. Et au finish, la mer morte, elle sort de lac. Parce qu'elle reçoit de l'eau et elle n'en fait rien. Les vont rester année après année élevés au niveau de cette mer-là. 10 fois pratiquement par rapport à la moyenne des autres océans, des autres mers. Et vous savez, pour ceux qui s'intéresseraient à ça, ou pour ceux qui ont été autour de la mer morte, si vous entrez dans la mer morte, vous n'allez pas vous enfoncer, vous allez flotter. C'est hyper salé, c'est hyper concentré. Pourquoi? Parce que la mer morte a reçu des eaux, mais la mer morte n'a jamais fait passer ses eaux ailleurs. Malheureusement, beaucoup d'entre nous, nous ressemblons à cela. Nous avons reçu beaucoup. Nous recevons ici les dimanches. Nous recevons dans les études bibliques, dans les cellules de prière. Nous recevons le vendredi, mais nous sommes incapables de nous intéresser au salut de notre voisin. Alléluia. J'aimerais t'encourager à dire à ton voisin de partager. Dites-lui seulement, partager. Partager, il s'agit aussi de partager les biens. De partager les biens. Pourquoi pas? Pas toujours l'Évangile. Alléluia. On peut aussi partager ses biens. On peut partager quelque chose qu'on a. J'aimerais raconter à ma honte et à notre honte, à nous tous, une histoire qui s'est passée il y a quelques années. Une sœur qui priait ici, qui venait toujours en mini-jupe. Elle s'habillait toujours très mal. Et dans nos milieux évangéliques, cette tenue-là, vous savez que nous ne l'acceptons guère. Et des frères et des sœurs commencent à la pointer du doigt. T'as mis ça là, ma bé. Les gens ont des mauvais travaux. Je dis en français pour ceux qui ne comprennent pas. Et voilà. Ah, elle vient ici pour faire tomber les gens. Mais un jour, une sœur courageuse va aborder la sœur et lui poser la question. Elle dit, pourquoi toi, tu t'habilles toujours comme ça? Tu ne vois pas que ce n'est pas bien? Oh, la sœur va se mettre à pleurer. Oh, ça devient sérieux. Une histoire de jupe qui fait pleurer. Elle dit, au fait, moi, on passe par des temps difficiles à la maison. Je n'ai même plus d'habits, je commence à porter seulement les habits de mes petites sœurs. Mais je n'aime pas manquer les réunions de l'église. C'est pour ça que je viens quand même. Pardonnez-moi si je vous choque. Si vraiment ça vous dérange, je me réponds. Celle qui était juge s'est transformée en consolatrice. Elle a commencé à dire, ça fait rien, ça fait rien. Viens seulement, viens seulement. Mais s'il vous plaît, ne trouvez pas là un prétexte hein, pour continuer à porter. Ne dites pas, non, aujourd'hui on a dit il faut porter. Non, elle, son cas, elle n'avait pas les habits. Mais souvent, nous ne nous occupons pas des gens. Nous aimons condamner. Ah, le frère Larry, vous vous mettez là chaque dimanche. Vous avez remarqué que lui, il aime lever les mains. Mais quand il lève les mains, c'est un poison autour de vous. Parce que le parfum qui se dégage là, vous sortez de la présence de Dieu. Mais offrez-lui un déodorant. Le dimanche prochain, venez avec un parfum. Pourquoi pas avec une chemise. Donnez-lui. Alléluia. Partagez. Au lieu de condamner, partagez, partagez, intéressez-vous au salut des autres, intéressez-vous à la situation des autres. Regardez, ce frère-là porte toujours la même chemise. Qu'est-ce que je peux faire pour lui? C'est aussi cela l'Église. Ce n'est pas seulement chanter Alléluia, ce n'est pas seulement se prosterner, c'est aussi se regarder en face et dire nous sommes une famille. Alléluia. Ne devenons pas comme la mère morte. Elle reçoit, mais elle ne partage pas. Le cinquième et le dernier point. Notre cher ami avait pris la décision de devenir ouvrier avec Dieu. Il a décidé de devenir un ouvrier dans l'équipe d'évangélisation. Regardez comment il donne des idées à Abraham. On aurait cru qu'on était dans un comité d'église et qu'on préparait une action d'évangélisation et on a un frère plein de fardeaux zélés qui tient à ce que les âmes perdues soient sauvées. Ouh, quelle intuition, quelles idées fécondes, mais prises en retard. J'aimerais parler enfin de ceux qui ne font rien pour s'engager dans l'Église. Année après année, vous êtes toujours là, assise. Et pourtant, vous chantez bien. Et pourtant, vous priez. Et pourtant, vous pouvez faire quelque chose pour que l'œuvre de Dieu avance. Un homme a écrit que la majorité des chrétiens passent le temps à critiquer leurs églises plutôt qu'à prier pour leurs églises, à critiquer leurs pasteurs plutôt qu'à prier pour leurs pasteurs. Si vous vous étiez posé la question, si vous deviez faire une moyenne entre les nombres de critiques et les nombres de prières, la balance sera où? Répondez seulement vous-même. Ne me dites pas, mais j'ai entendu la réponse. Où serait la balance? Côté prière ou bien côté critique? Parce que très souvent, nous ne voulons pas devenir des ouvriers. Nous venons comme des spectateurs. Nous ne voulons pas faire avancer l'œuvre. Nous ne voulons pas participer. 1 Corinthiens 3:9 dit, « Nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. » Et Matthieu 9, 37-38, la Bible dit, « Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. » Devons prier pour que Dieu envoie des ouvriers. Voyez, si vous ne pouvez pas venir travailler, vous pouvez néanmoins prier. Parce que tout le monde peut prier. Alléluia. Tout le monde peut contribuer par sa prière. Cet homme, il est du coup saisi d'un fardeau. Il veut que les choses changent. Il veut que les hommes changent. Il veut que les vies changent. Il veut que les hommes se convertissent au Seigneur. Il veut que sa famille ne puisse pas aller en enfer seulement. Il a pris cette décision au mauvais moment. 5 bonnes décisions prises tardivement. J'aimerais nous demander de courber nos têtes en prière. 5 bonnes décisions qui sont prises au mauvais moment, alors qu'il est trop tard. Il a réalisé que Dieu était sa richesse. Il a réalisé en ce moment-là précis qu'il avait besoin de Dieu. Il a réalisé qu'il devait partager. Il a réalisé qu'il devait travailler pour son salut éternel. Il a réalisé qu'il devait œuvrer pour Dieu. Mais tout cela, il l'a fait en retard. J'aimerais, alors que nos yeux sont fermés, que nos têtes sont courbées, faire un appel. Demandez à tout celui qui n'a jamais donné sa vie à Jésus. Si vous êtes là, vous n'avez jamais pensé et travaillé pour votre éternité, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Vous m'aurez compris ensemble. Vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Merci pour ceux qui se lèvent. Deuxièmement, j'aimerais demander à tout celui qui est rétrograde. Vous savez que vous avez arrêté de marcher avec Dieu. Vous avez gardé votre carte de membre. Vous avez gardé vos participations à l'église. Mais vous ne marchez plus selon la vie de Dieu. Tout le monde pense que vous marchez, mais vous savez que vous reculez. Puisque vous êtes là, je vous demanderai aussi de vous lever. Nous allons prier. C'est un signe de foi devant Dieu que vous prenez cette décision. Ce n'est pas devant moi. Qui suis-je? Vous avez réalisé que vous ne marchez pas de la bonne manière et que votre éternité est à risque. Dites non, Seigneur, sauve-moi. Fais-moi sortir de ceci. Je demanderai à Papa Timothée de venir prier pour tous les amis qui se lèvent.
Que d'être un grand roi vêtu de fardeau, mais le cœur désert sans lui. J'aime mieux avoir Christ que le plus grand bien que le monde offre. Oui, Seigneur Dieu de gloire, nous voulons te présenter tous ces amis qui sont debout. Seigneur, tu connais les cas de tout un chacun. Notre prière, Seigneur, est que tu viennes ce matin pardonner les péchés. Seigneur, tu t'invites dans leur cœur et que tu règnes dans ce cœur, désormais qu'ils marchent en nouveauté de vie. Comme la parole de Dieu nous le dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Merci, ô Dieu, pour ces frères et sœurs que tu reçois dans ta maison. Je sais qu'il y a une grande joie dans le ciel et nous nous réjouissons avec le ciel. Que toute la gloire te revienne. Merci pour cette bonne parole, ô Dieu. Seigneur, nous prenons l'engagement d'être ouvrier avec toi, de marcher avec toi, d'aimer ta parole. Seigneur Dieu de gloire, tu es notre seul bien. C'est pourquoi, ô Dieu, sois notre priorité dans la vie. Alors que nous voulons prendre les offrandes, nous voulons, Seigneur, que tu bénisses ces offrandes et que tu bénisses ces moments. Au nom de Jésus, nous prions et nous disons tous Amen. Que le nom du Seigneur soit béni.